Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Votre nom de scène est lié à des nourritures terrestres, alors que les vôtres sont plutôt intellectuelles. Le natif de Tours que vous êtes fait aujourd'hui le tour des musiques que vous aimez. Bonjour Ben Lanquesol, ou plutôt bonjour Ben.
Bonjour, bonjour Jacques.
Oui, car dans votre dernier album, dont on va parler, vous n'êtes plus Lanquesol, vous êtes Ben.
Oui, j'ai simplifié de manière à mettre un point finalement à tout ce que j'avais fait jusqu'à aujourd'hui, et puis ça me laisse maintenant une ligne devant moi pour écrire la suite, quoi.
Voilà, alors pour l'instant on va parler du passé, ouais. À travers des dates clés, c'est le principe des clés d'une vie. La première que j'ai trouvée, c'est le 1er juillet 2008.
Ouais.
Ce jour-là, vous êtes à l'Olympia avec cette chanteuse. Laure Millan, et vous assurez la première partie de l'Olympia, je crois, Ben.
Exactement, c'est la seule fois où j'ai fait l'Olympia. Et je suis plutôt content parce que 12 ans plus tard, je suis reprogrammé à l'Olympia en janvier.
Le 27 janvier,
oui. Ouais. Je suis très content, ouais. C'est marrant ce clin d'œil.
En plus, se retrouver pour la première fois quand on débute avec ces lettres rouges, c'est un événement, c'est une émotion.
Bah, ça doit faire quelque chose, oui. J'avais entendu dire que le nombre de lettres était payant sur la devanture de l'Olympia, mais je me suis peut-être trompé.
Non, je crois que vous gagnez uniquement à être connu sur la façade. Non.
Mais c'est pour ça que j'avais simplifié Ben, ça faisait moins de lettres.
Ça faisait moins de frais, exactement. Alors, c'est arrivé parce que c'est le chanteuse qui s'appelle Loretta aujourd'hui, oui. Vous a repéré, vous a demandé de venir en première partie.
Exactement, Laure Millan. Loretta aujourd'hui, elle aussi, elle a changé de nom pendant son parcours artistique. Et puis, je lui passe un grand bonjour déjà, parce que je l'adore. Et puis, c'est une fille du Sud. Donc, Sud Radio, ça lui va bien aussi. Ouais. Faudra peut-être l'inviter un de ces jours.
Avec joie. Et donc, elle vous avait repéré alors que vous arriviez à Paris. Vous êtes, je crois, de Chambray-les-Tours. C'est un quartier, le quartier Les Perriers, qui est un quartier calme à Tours.
Oui, c'est un quartier résidentiel, c'est tout mignon, on dirait un peu le Canada, avec des petites maisons, des petits lotissements, c'est tout à fait sympa, et puis c'est en banlieue proche de Tours, qui est une ville quand même du reste assez dynamique, avec beaucoup d'universités et d'écoles. Moi, j'ai fait les Beaux-Arts là-bas.
Oui, vous avez commencé par le collège Jean-Philippe Rameau. D'ailleurs, c'est assez curieux parce que Jean-Philippe Rameau, lui, a arrêté ses études à la classe de 4e parce qu'il faisait de la musique tout le temps. On a donné son nom à des collèges.
Mais ça, c'est sympa parce qu'en fait, ça montre qu'il n'y a pas de mauvais parcours, en fait.
Et votre parcours, donc les Beaux-Arts, pourquoi les Beaux-Arts, Ben, Saoul ?
Moi, en fait, depuis tout petit, ce qui me passionne réellement, c'est le dessin, c'est les arts graphiques. Et donc, ma mère, elle, était mélomane et passionnée de musique. Et donc, finalement, ça accompagnait très bien mon dessin, c'est d'avoir de la musique en fond. Et je me suis fait toute une culture musicale grâce aux disques de ma mère. Et pendant ce temps-là, moi, j'étais concentré plus sur le papier, à dessiner, à faire de la peinture, des choses comme ça.
Voilà. Et je crois que le premier disque que vous ayez entendu, c'est dans le ventre de votre mère, c'était celui-ci. Car je crois, Ben Lanquesol, que votre mère a acheté cet enregistrement d'Otis Redding et que ça l'a fasciné.
Oui, exactement. En fait, elle a eu... Toute ma famille, on a grandi dans des lycées, en fait. Mon grand-père était chef cuisinier dans les lycées, et ma grand-mère intendante. Et du coup, on a grandi, on avait des logements de fonction, on a grandi dans les lycées. Et ma mère a rencontré un correspondant américain. À l'époque, c'était à Argenteuil. Ils étaient à Argenteuil. Et ce monsieur, je ne me rappelle plus de son nom, mais ce monsieur a ramené dans son sac les disques de l'époque aux États-Unis. Et il nous a fait découvrir les compiles formidables. Dans ces compilations, il y avait James Brown, Aretha Franklin, Otis Redding en l'occurrence. Et ma mère est tombée complètement amoureuse de Otis Redding, effectivement. Ouais.
Et ça vous a donné le goût de la musique? Parce qu'au départ, vous auriez dû être professeur d'art plastique.
Oui, enfin, j'en rigole souvent parce que finalement, j'ai jamais eu mon CAPES et j'ai pas du tout enseigné. Mais c'est un peu le parcours que je m'étais donné. C'est vrai que j'aime la transmission et j'aime bien travailler avec d'autres personnes. Donc finalement, professeur, il y a une forme de transmission qui est intéressante. Et puis c'est récréatif, c'est quand même les arts plastiques. C'est voilà, c'est pas non plus une matière qui est trop c'est pas bridant, quoi.
Voilà. Alors, il y a une chose extraordinaire avec vous, Ben Oncle Saul, c'est que votre père, vous l'avez connu à 22 ans.
Ouais, je l'ai connu 22 ou 23, ouais. Mais en gros, plutôt tardivement.
Ouais, c'est plutôt. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah écoutez, il y a l'histoire de mes parents. Ils ont le, j'aime souvent dire que ils ont leur histoire et moi j'ai la mienne avec eux. C'est-à-dire que ils se sont rencontrés, ils étaient assez jeunes et mon père est reparti vivre assez rapidement en Martinique après ma naissance et voilà, je sais pas trop s'ils se sont séparés ou s'il avait juste le mal du pays. En tout cas. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. On a Facebook, Instagram, tous les réseaux, les téléphones en 4G, etc. À l'époque, finalement, si on laissait pas un nom derrière soi, on pouvait ne plus se revoir pendant des années.
Et puis, il y a eu un miracle parce que vous êtes arrivé, il était mourant. Il s'en est sorti. C'est une belle histoire, ça aussi.
C'est vraiment... c'est les petits clins d'œil de la vie qui font que parfois, ouais, effectivement, il y a des coups de maître, il y a un peu de magie qui se crée. Bon, je me dis aussi, c'est vrai que renouer avec un fils qu'on avait un peu perdu, ça a dû lui donner aussi une force pour affronter un peu la difficulté, cette épreuve qu'est le cancer.
Il s'en est sorti et vous êtes donc revenu en France. Et la musique, d'après mes renseignements, Oncle Saul, ça a commencé avec un groupe de gospel qui s'appelle Fitia Vanna.
Ouais. Alors, c'est un groupe de gospel qui n'est pas conventionnel. C'est un groupe de gospel qui reprend... qui reprend des œuvres plutôt contemporaines, aussi un peu traditionnelles. Mais c'est vrai qu'il y avait déjà un pied dans le passé avec des standards traditionnels comme Joshua Field, Battle of Jericho. Mais derrière, on pouvait reprendre, par exemple, des œuvres de Sting, ce genre de choses. Donc, c'était un groupe vocal. On faisait beaucoup d'animations, mariage, baptême, enterrement... Et ça se passait bien souvent dans les églises, en fait.
Voilà. Et le miracle aussi s'est produit ensuite quand vous avez découvert un mot qui est Motown. Ouais. C'est une contraction de Motortown, d'ailleurs, je crois, la ville du moteur, le nom de Détroit.
Détroit, ouais.
Et c'est devenu une compagnie musicale qui a marqué votre vie, Ben.
Complètement. Et puis celle de millions de personnes, puisque Michael Jackson, notamment, a fait ses débuts dans cette grande maison de disques. C'est Berry Gordy qui a monté ce label dans les années 60.
C'est avec l'argent de ses parents d'ailleurs, ouais. Les économies des parents. Ils ont été remboursés bien ensuite.
Ouais, plutôt. Et j'étais très content de pouvoir signer avec un label qui évoquait aussi pour moi des artistes et un courant musical, une identité sonore, une démarche aussi. Et quand Motown France, donc à l'époque c'était Diams et Sébastien Catillon qui étaient à la tête de ce label, sur la section française, j'étais très content, il y avait Hocus Pocus, il y avait Gaël Faye avec Milk Coffee Sugar, il y avait comme ça des artistes assez métissés, plutôt mélangés, plutôt ouverts. Et moi, c'est ça que j'aime dans la musique, c'est ce tissage entre le passé, le présent, le futur, avoir quelque chose de relié à quelque chose de très créatif et tout le temps en mouvement, en fait. Et Motortown, pour reprendre votre clin d'œil, ça va de l'avant, c'est ça que j'aimais bien, moi.
Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous êtes arrivé avec des maquettes que vous aviez réalisées à partir des chansons des années 60 et que ça a été le point de départ, Ben.
Ouais, le point de départ, le point de départ, c'est un EP qu'on m'a demandé de faire parce que j'étais en création du premier album. Et puis, de signer avec une maison de disques, c'est quand même Universal, etc. Oui.
Mais vous avez fait les maquettes chez vous tout seul ?
Ouais, bien sûr. Enfin, chez Gabin, en l'occurrence. Gabin Le Sieur, qui était un des arrangeurs et compositeurs avec qui j'ai travaillé sur le premier disque. Et on a tout fait chez lui, ou presque, quoi, en tout cas, pour au moins composer les choses, quoi.
Voilà, parce qu'il faut savoir que Motown, il y a aussi les Jackson 5, bien sûr, il y a Diana Ross, les Supremes, Marvin Gaye, plein de gens. Et d'ailleurs, il était très fort, le créateur, puisqu'il gardait les noms, il déposait les noms, ce qui fait qu'il y a eu ensuite, il y a eu quelques problèmes et les chanteurs sont partis.
Pieds et poings liés, souvent, avec le label de départ, quoi.
Voilà.
C'est très compliqué, après, de pouvoir s'affranchir de tout ça. Mais c'était la grande force de business... de Bérigordi, quoi.
Voilà. Et vous, votre grande force, c'est justement votre indépendance et votre universalité. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 22 janvier 2011. À tout de suite sur Sud Radio avec Ben Lanclesol.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Ben Lanclesol, donc Ben, aujourd'hui, avec ce nouvel album, et un passé qu'on évoque à travers une date, le 22 janvier 2011. Ce jour-là, je vois une télévision qui s'appelle Les Soldes Enchantants, et vous êtes dans une boutique de Cannes en train d'acheter un nœud papillon. Vous en souvenez?
Oui. On avait fait un sujet là-dessus, ouais, c'est ça.
Ça s'appelle Claude Bonucci, c'est un monsieur qui a habillé Cool of the Gang ou Claude François. Et vous êtes là parce que vous achetez un nœud papillon pour la soirée des Energy Awards.
La SAP et la représentation, les effets scéniques, ça part aussi du plaisir de s'habiller. Mais en gros, voilà, c'est le petit waouh. On cherche toujours le petit waouh quand on monte sur scène. On se dit, ah, on va pas se présenter comme tous les jours. On va, voilà, ce jour-là, chercher un petit nœud papillon sympa.
Voilà. Alors justement, le nœud papillon, d'après mes renseignements, enfant déjà à l'école, vous portiez le nœud papillon de votre grand-père, Ben.
Occasionnellement, mais c'est vrai que j'aimais bien le décalage. Et j'aimais bien passer de la casquette à l'envers, le pantalon haut de taille, chemise rentrée avec les bretelles et le nœud papillon, c'est vrai que j'aimais bien ça, ouais.
Alors, je me suis un peu aussi renseigné l'origine du nœud papillon. En fait, en 1904, Madame Butterfly est présentée à l'opéra de Puccini, et il y a un nœud court sur scène, et ça donne envie aux gens de s'habiller pareil, et les hommes vont s'habiller avec un nœud papillon le soir, ressemblant à celui du spectacle. Et c'est d'accord. Comme ça que c'est né en France.
Ah, c'est soirées. Super intéressant.
Alors, il y avait aussi les pantalons de golf. Ça aussi, comme Tintin d'ailleurs, qui portait des pantalons de golf, ça aussi c'est une
bonne... Avec les high socks.
Voilà.
Mais ouais, c'est que des choses en fait qui font partie du passé, mais qu'on a redécouvert avec des artistes comme André 3000 par exemple de Outkast. C'est un espèce de décalage, un clin d'œil aussi à pas mal de choses.
Voilà. Et le pantalon de golf, en fait, il est né parce qu'au départ, sur les terrains de golf, avoir le bas relevé, ça permettait d'éviter de cacher les balles, de faire croire qu'une balle était tombée ailleurs, voyez.
Ah oui, d'accord.
C'est une astuce. Alors, c'est à ce moment-là que naît votre surnom, Oncle Ben. C'est venu comment ça? Je crois que déjà à l'école, on vous appelait Oncle Ben.
Il y avait un surnom, justement, qui est venu un peu avec avec le style, les nœuds papillons, etc. C'était... la pochette de riz, en fait, Uncle Ben's, quoi. Oui. Dans l'idée, c'était ce rétro-décalage. Et puis du coup, comme je m'appelle Ben, tout le monde m'appelle Ben. Voilà. C'est Benjamin, mon prénom, mais oui. Tout le monde m'appelle Ben. On en est venu vite à faire Uncle Ben's, Oncle Ben.
Et la marque de riz a fait comme vous, maintenant, elle s'appelle Ben's Original, vous voyez. Allez. Alors, si vous êtes à Cannes ce soir-là, Ben, Oncle Sol, c'est parce que vous êtes sur la scène des Energy Awards pour chanter ceci. Cette chanson, ça, on l'a tous entendue. Et c'est votre premier album sous le nom de Ben Uncle Sol.
Oui, c'est ça. C'est mon premier disque avec des compositions originales, avec ce clin d'œil en permanence qui regarde en arrière avec la musique de ma mère, les vieux disques de ma mère, et puis une manière de produire un peu plus moderne. Le fait de chanter en français aussi.
Oui, car vous êtes il y a 14 chansons en français et en anglais. En général, on ne fait pas les deux. On fait l'un ou l'autre.
Ouais, c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à me décider sur la langue à utiliser parce que c'est vraiment mes deux langues maternelles parce que finalement, la musique, pour moi, c'était en anglais. Je n'écoutais pas de disques en français à la maison. Il n'y avait quasiment que de l'anglais. Il y avait peut-être Francis Cabrel et encore un autre artiste, Brel peut-être, une cassette. Mais globalement, toute la musique que j'écoutais, c'était quand même de la musique anglophone, anglo-saxonne. Et je prends énormément de plaisir à composer, à écrire dans ce style et avec cette langue, quoi.
Oui, et en même temps, cet album a eu un succès que vous n'imaginiez pas.
Ah, ça, c'est sûr, oui. Premier album, on a vendu énormément de disques à l'époque où il y avait encore des disques
oui.
Qui se vendaient.
C'est le bon temps.
Et puis, ça nous a permis de faire une tournée assez faramineuse dans 26 pays différents, je crois. Où c'était assez impressionnant. On a vraiment fait beaucoup de dates de concerts. On a bougé un peu partout.
Et comment on vit ça, justement?
Bah, c'est super, en fait. C'est super parce que on arrête de fantasmer ce métier de musicien. On est en train de vivre la vraie vie de tournée, celle de perdre pied avec les noms des villes, avec le nom des pays. On ne sait même plus où on est. On se réveille un matin et voilà. C'est très enrichissant. Enfin, tous les voyages, c'est vraiment très enrichissant, quoi.
Alors cet album, il y avait une autre chanson, une version remasterisée d'une chanson qui s'appelle Seven Nation Army. On a tous entendu ça, et pas seulement dans les discothèques. Et en fait, cette chanson, c'est un peu la base de votre carrière, je crois, Oncle Ben.
Oui, parce que en fait, c'est le premier single de l'EP que Motown m'a demandé de sortir, et où on reprenait comme ça des titres qui sont pas vraiment ni soul ni vintage, plutôt des morceaux assez contemporains, 90-2000. Et l'idée, c'était de les reprendre en leur donnant un écrin un peu plus intemporel, en changeant complètement, on va dire, l'émotion des versions originales. Donc c'est ce qu'on a fait avec ce morceau des White Stripes, en mettant un peu de reggae, en remettant un peu de soul, avec des caisses claires qui ressemblent à Superstition de Stevie Wonder, avec des choses comme ça.
Alors, les White Stripes, c'était un groupe dirigé par Jack et Meg White.
Ouais.
Alors, ils se sont fait passer pour frères et sœurs alors qu'ils étaient mariés. Et on l'a appris quand ils ont divorcé.
C'est le genre de clin d'œil qui est vraiment rigolo, puisque c'est entre vie privée et vie publique. Le travail de l'artiste en représentation et dans le privé, enfin, il y a quelque chose d'assez intéressant là-dessus.
Oui, et ça vous intéresse justement de faire attention à sa vie privée quand on est artiste.
Ouais, je pense que de plus en plus, en fait, la musique prend énormément de place. En fait, il y a plus trop l'histoire du personnage. Ben donc le soul, c'est vrai que je travaillais tout un truc avec justement ces tenues vestimentaires, ce décalage, ce personnage. Mais aujourd'hui, je suis vraiment tellement dans la musique que ça m'intéresse beaucoup moins de faire ce travail sur l'image, en fait.
Oui, mais ce travail a servi parce que finalement, quand vous êtes arrivé, je crois que le premier album, ça s'appelait Soul Wash.
Oui.
Bon, les gens ne connaissaient pas. Et la musique soul, on ne savait pas très bien ce que c'était, finalement. On avait oublié, la nouvelle génération avait oublié.
Ben, c'était vraiment faire le pont, en fait. Moi, j'aime à penser que les artistes sont là aussi pour mettre en avant des niches, des détails, des choses, des zooms sur une époque, sur une période, sur quelque chose qui a été fondateur. Et finalement, j'ai eu plein de retours de ma génération qui n'écoutaient pas du tout ces disques-là, mais qui me disaient « Ah, mais en fait, tiens, dans tel titre de IAM, tiens, dans tel titre de tel groupe, j'ai entendu des sonorités comme ça. » Je dis « Ouais, bah c'est le travail du sample. »
Oui. Et alors, ce qu'on a oublié aussi, c'est qu'on pense que la musique soul, ça vient de loin. Ça vient des années 50 et c'est un mélange entre le gospel et le rhythm and blues.
Exactement.
C'est récent, finalement.
C'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça. Il y a eu énormément de disques en une trentaine d'années. Il y a eu 1 milliard de disques avec beaucoup de labels qui défendaient cette musique aux États-Unis,
oui,
notamment.
Pour vous, il n'y a pas eu 1 milliard de téléchargements, mais beaucoup. Vous avez été, à cette époque-là, l'un des plus téléchargés du net naissant.
Eh oui. Je ne sais pas si c'est une fierté. Non, je rigole.
Non, mais c'est vrai que c'était absolument incroyable. Je crois qu'il y a eu des millions de téléchargements.
Oui, oui, ben moi-même, étant jeune, pour vous faire une petite confidence, j'ai aussi fait toute une partie de ma discographie et de ma discothèque en téléchargeant.
Voilà.
Donc, c'est pour ça que j'ai jamais tenu de discours quand le streaming est arrivé, parce que finalement, je suis pour ouvrir les portes. J'aime l'idée de la bibliothèque. Et j'aime l'idée d'avoir accès, en fait, et que ce soit pas que la culture ne soit pas quelque chose qui dépend de vos finances ou de votre classe sociale, en fait. Donc c'est vrai que quand le téléchargement légal ou illégal est arrivé, j'étais quand même content.
Voilà. Alors vous avez ouvert une porte. Nous, on va en ouvrir une autre dans quelques instants à travers une autre date, le 15 juin 2014. À tout de suite sur Sud Radio avec Ben, l'Angle Soul.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Ben Lanquesol, plutôt Ben aujourd'hui, avec ce nouvel album dont on va parler tout à l'heure. Une date importante, mais assez étonnante, le 15 juin 2014. Ce jour-là, il y a une manifestation, les Franco-Gourmandes de Tournus. Et vous êtes avec Christophe Mahé le soir pour le concert. Alors, les Franco-Gourmandes de Tournus, c'est quand même assez étonnant de voir l'Oncle Saul là-dedans, même si c'est de la nourriture, puisque je crois qu'il y a eu 3000 menus dégustés et plus de 2000 box culinaires consommées.
Je me rappelle difficilement de cette date, en fait.
Il y avait trois chanteurs. Il y avait vous, il y avait Christophe Mahé, ouais. Et il y en avait un troisième. Et vous avez fait la dernière partie, le soir. Après, il y avait un grand dîner, grand buffet, et vous derrière.
D'accord, ok.
Vous faisiez beaucoup de galas comme ça, beaucoup de concerts un peu étonnants.
Des festivals avec des concepts, ouais, on a fait pas mal quand même, l'air de rien.
Parce que finalement, c'est une façon aussi d'évoluer en scène, car la scène, et ça c'est important, c'est venu après le disque. Il y a des chanteurs, ils vont à la télé un jour, ils vont sur scène le lendemain. Vous, ouais. Vous avez attendu.
Ouais, en fait, j'ai pas trop d'habitude avec ça, mais c'est vrai que c'est intéressant. Soit on monte sur scène pour défendre un album, soit on monte sur scène pour fabriquer encore l'album à venir, c'est-à-dire que... d'éprouver avec le public et par le live des chansons qui sont encore naissantes et fragiles, peut-être, c'est quand même leur donner une chance d'être améliorées avant d'arriver en studio pour les enregistrer. En fait.
C'est ce qui se faisait d'ailleurs jadis dans les années 50. Mais au-delà de ça, vous avez commencé beaucoup plus tard qu'on pourrait l'imaginer, parce que dès votre premier album, vous pourriez faire de la scène. Vous avez attendu un an.
Eh bien, en même temps, il y avait pas mal de promos à faire. Et c'est bien d'être sur place, ouais.
Oui, mais en même temps, c'est la tradition, et c'est Bruno Cocatrice qui faisait ça dans les années 60, quand un chanteur débutait, exemple Dalida, ouais. C'était une première partie, ensuite c'était un petit musical et un grand musical, et on prenait le temps de devenir une vedette. Et vous, vous avez pris le temps d'aller des petites salles aux grandes salles.
Exactement. D'ailleurs, c'était pendant l'explosion du premier album avec Soulmen, puisqu'il était sorti en 2011-2012, donc... là, on est en 2014. Mon tourneur, à l'époque, c'est Luc Gorichon, qui a une boîte qui s'appelle Caramba Spectacle, avec laquelle je bosse depuis le début de ma carrière. Et je l'adore parce qu'il est venu me dire « Bon, écoute, Ben, voilà. En gros, maintenant, tu as du succès. Donc, toutes les petites salles, on peut aussi leur dire « Bon, on a d'autres artistes, de toute manière. On ne les met pas en galère, on leur donnera d'autres artistes. » Mais du coup, si tu veux, tu peux passer directement aux grandes salles. Ou alors, sinon, tu peux honorer l'engagement qu'on a pris avec ces petites salles, parce que c'est aussi le parcours d'un musicien de faire ces salles-là.
Et finalement, vous l'avez fait ?
Et je l'ai fait sans me poser de questions, parce que les petites salles, c'est très formateur. En plus, on est très proche du public. Moi-même, en tant qu'audiophile et gros kiffeur de musique, comme on dit, j'aime être proche des artistes quand je vais les voir. Et c'est vrai que même si je me rappelle d'un Lenny Kravitz à Bercy, qui était un concert incroyable, j'ai aussi adoré Charles Bradley à la Maroquinerie. Et finalement, je pense que c'est trouver l'équilibre entre les petites salles, les grandes salles, mais rester connecté avec les gens, avec le public, c'est important.
Voilà, Johnny Hallyday a fait l'Olympia en 2000. Mmh. Il était presque plus heureux de faire l'Olympia que de faire le Stade de France.
C'est pas étonnant, parce que c'est une salle qui est réputée aussi pour le son. Il y a une belle sonorité dans cette...
Alors, vous avez fait aussi des festivals. L'un des premiers, je crois, c'était le Festival de Jazz de Montréal en 2011. Ouais. C'est l'un des festivals les plus importants du monde. Je crois qu'il y a chaque année 3000 artistes qui viennent de 30 pays différents et 650 concerts. Et on chante même dans les rues de Montréal.
Ouais, c'est un festival qui est assez rigolo parce qu'en fait, il est disposé sur une place principale. Et en fait, toutes les rues qui sont adjacentes, il y a des rappels avec des haut-parleurs et des écrans. Donc, il y a tellement de monde, il y a plus de 70 000 personnes qui viennent à ce festival.
Et on ne chante pas de la même façon que dans une petite salle, Ben.
Non, et puis ce n'est pas exactement le même plaisir et la même excitation. Surtout qu'on était complètement des rookies, complètement nouveaux dans le paysage musical. Et que faire l'ouverture du Jazz Festival de Montréal, en général, c'est plutôt Stevie Wonder ou les Rolling Stones, quoi.
Voilà.
Donc finalement, ce jour-là, c'était un des plus beaux jours de ma carrière musicale, je pense.
Et on vous avait choisi comme ça, parce qu'il y avait un succès ?
Oui, en fait, c'est le programmateur qui fait également les Francofolies de Montréal. Et on avait joué sur une petite scène, il était venu nous voir et nous avait trouvé génial. Il nous avait dit ah, « Vous êtes incroyable, en fait, vous êtes mon coup de cœur, je vous programme en ouverture du festival de l'année prochaine ».
Voilà, et alors il y a eu quand même quelque chose, c'est-à-dire que votre énergie vous a permis d'avoir une victoire de la musique, de la révélation scénique.
Oui, qui pour moi, en plus... c'était assez important et puis c'est ce qui a marqué les 10 années de carrière qui viennent de passer. C'est que je suis passé vraiment beaucoup par la scène, donc avoir cette révélation scène, c'était la plus belle récompense en fait qu'on pouvait avoir.
Voilà, et il y a eu un enregistrement aussi d'un live, le premier, ça s'appelait Live in Paris, et c'était fait au Zénith et il y avait cette chanson. Girl, I'm down for you. Feel this through the years. Girl, you know I'm right. So come home. Ça aussi, c'est une chanson importante dans un style tout à fait différent, presque années 30.
Ouais, Come Home, c'est un peu nostalgique comme morceau. Mais il y a vraiment deux aspects. Il y a le yin et le yang dans ce morceau-là. Là, on a entendu la partie plutôt balade. Et il y a la partie un peu plus énervée, en contraste, derrière. Qui vient illustrer en fait tout simplement la colère d'un homme amoureux quand il se fait larguer. Mais c'est assez rigolo parce que ce morceau, je l'ai écrit avec Bita Sayan, c'est un rappeur de Philadelphie, mais qui vit en France depuis des années. Et là, il est retourné à New York maintenant, mais on continue de travailler ensemble à distance.
Alors, vous avez connu New York, mais aussi Londres. Vous avez fait une émission très célèbre qui s'appelle le Letter with Jules Holland. Ça aussi, c'est une émission très célèbre en Angleterre.
Jules Holland, ouais, c'est l'équivalent de ouais, c'est leur gros taratata. C'est une belle émission de musique là-bas.
Et ça vous permet, d'ailleurs, je crois que l'animateur est au piano aussi, et ça vous a permis d'être connu en Angleterre.
Exactement, ouais, c'était notre plus beau passage télé, on va dire, en Angleterre. Et on est passé avec Seven Nation Army, justement.
Voilà. Ouais. Alors, l'Angleterre, justement, il y a une chanteuse avec qui vous avez collaboré le temps d'une chanson, une chanteuse très connue, on écoute, c'est Petula Clark. Hold my hand, let me know you really understand. There's another world out there I wanna find. We could leave it all behind. Let's fly so high. We can make it. Petula Clark est en duo avec vous, on l'a pas entendu là, mais elle est en duo avec vous. C'est étonnant ce duo, Ben.
Ouais, mais en fait, moi, c'est ce que j'aime dans la musique, c'est le côté imprévisible et non calculé de plein de rencontres. En général, j'aime dire oui à des propositions qui me surprennent. Et là, c'était justement les producteurs de Bita Sayan à l'époque, qui s'appellent M&M's, c'est Max Lebidois et Max Pinto.
Comme les chocolats, ouais, comme les bonbons.
Exactement. et ils ont écrit cette chanson et ils m'ont dit « Écoute, on est en train de réaliser l'album de Petula Clark et en fait, on a pensé à toi pour venir faire le crooner et te voir dans un univers qui à la fois te correspond et fait le lien entre une artiste de l'époque vraiment qu'a connue. » Et en plus, voilà, elle m'a raconté énormément d'anecdotes, notamment sur Frank Sinatra, qui était incroyable.
Oui, elle a connu tout le monde. Elle vit à Los Angeles aujourd'hui. D'ailleurs, elle est en pleine forme. Oui. Mais il y a une chose qu'on sait peu d'elle. Elle a commencé à chanter à 7 ans. C'était à la BBC pendant la guerre. Et elle faisait des couplets pour enfants. Et sans le savoir, ces couplets étaient écrits. Elle faisait passer des informations à la résistance à travers ces couplets.
D'accord, ah ouais.
Et ça, elle n'en parle pas beaucoup.
Non, mais c'est une grande dame.
C'est une très grande dame qui est venue en France, qui a fait une carrière extraordinaire. Et effectivement, elle est toujours en forme. Elle continue à faire des comédies musicales aujourd'hui aux États-Unis. Et justement, les États-Unis, vous y êtes allé souvent, Ben, quand vous aviez un coup de mou, pour faire un bilan.
Ouais, c'est un pays, en tout cas, qui a toujours été là dans mon univers, puisque à travers les disques, la musique et la culture même... films, séries, etc. C'est vrai que je pense que la génération des années 80 et 90, on peut tous dire qu'on a été énormément influencé par les États-Unis.
Et puis un jour, lors de vos voyages, vous retrouvez un groupe, Monophonix. Et ça a changé aussi votre vie.
En fait, c'est ici, à Paris, que je les ai rencontrés.
C'est un groupe de soul aussi.
C'est un groupe de soul, ce qu'ils appellent soul psychédélique. C'est un mélange de soul aussi influencé par des rares 60s, vraiment un son très crade en fait. Un son qui n'est pas du tout celui de Motown par exemple dans l'idée. Mais c'est un son qui est plus Stax, qui est plus, plus engagé. C'est un groupe, c'est des gars, ils se connaissent depuis qu'ils ont 10 ans, un truc comme ça.
Mais ils ont fait des tas de choses. Ils ont repris notamment Bang Bang de Sonny & Cher, qui a été repris en France par Sheila et qui était son premier film. Mm-hmm. Ils ont tout fait. Et avec eux, vous avez enregistré à San Francisco, notamment cette chanson. Encore, c'est un univers très différent.
Bah là, pour le coup, c'était un vrai clin d'œil à notre culture française musicale avec ce qu'on a connu, les yéyés. Et c'est vrai que quand on commence à geeker, à devenir un geek de la musique, à acheter des instruments de musique d'époque pour avoir le même son, etc., très vite, on en vient à cette période où en France, les yéyés, ils avaient un son formidable au niveau des studios. Ça a été enregistré dans les plus grands studios parisiens. Il y avait évidemment du son analogique, c'était enregistré sur bande. Et on retrouve un peu cette énergie avec un son un peu crade. Moi, ça me fait toujours penser à Gaston, il y a le téléphone qui sonne.
Oui.
Quand on écoute l'instrumental, c'est carrément Amy Winehouse, en fait, derrière la musique, quoi.
Et puis, il y a aussi quelqu'un qui vous a influencé, vous l'avez chanté, c'est Frank Sinatra. Mm-hmm. I've got you under my skin. Mm-hmm. Là aussi, c'est quelque chose d'important pour vous.
Ouais, Under My Skin, c'est une chanson qui a été écrite par Cole Porter et c'est là où on se rend compte que les grands compositeurs, la chanson vient vous chercher quand vous la faites dans la bonne émotion au bon moment. Je sais plus combien on a de millions de vues sur cette vidéo où je fais la version acoustique du disque en fait. Je crois que c'est la chanson qui est venue me chercher en fait. Il y a eu un moment, un instant assez magique qui parle de beaucoup de choses en vérité, mais la force des mots et de la mélodie avec
Mais il y a un côté Sinatra chez vous en plus dans ce côté crooner.
Mais en fait je l'ai découvert avec Sinatra, mais finalement c'est pour ça que je parle souvent de Cole Porter, parce que c'est le gars qui fait que en fait dans la bouche de n'importe quel crooner de l'époque, la chanson est sublime en fait.
Ouais. Et Sinatra a failli écrire ses mémoires, je sais pas si vous le savez.
Non.
Jackie Kennedy voulait les éditer, donc ils ont passé une soirée ensemble, une nuit. C'est tellement mal passé que le lendemain, Jackie Kennedy l'a jeté qu'il n'a jamais écrit ses mémoires.
Ah oui, carrément.
Carrément.
Ah ouais.
Ça c'est une histoire plus privée mais intéressante aussi. Alors maintenant, on va revenir à cet album avec une autre date, le 27 mars 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Ben, l'oncle Soul, ou plutôt Ben.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Ben, l'oncle Soul, ou plutôt Ben, puisque le 27 mars 2020, c'est la sortie en numérique d'un album, Addict to You. Et là, c'est plus Ben, l'oncle Soul, c'est Ben.
C'est Ben.
Et c'est votre quatrième album et c'est un retour aux sources.
C'est un retour aux sources d'une certaine manière, parce que c'est vrai qu'on me connaît beaucoup avec un son assez vintage, quand même assez rétro, plutôt emprunté aux années 60-70, avec toujours ça et là des brins de modernité. On sent bien que c'est pas un album qui a été enregistré à cette période, mais il y a toujours ce clin d'œil. Et là je m'en affranchis un petit peu, j'ai un peu lâché la relation avec la soul. Alors, à travers ma voix, il y a toujours ce vecteur-là, puisque c'est ce qui m'a construit et appris à chanter. Mais c'est plutôt dans la réalisation musicale. Je suis dans d'autres choses encore aujourd'hui. On peut parler plus de R&B, plus de rhythm and blues, en fait.
Oui, un mélange de musique. Mais surtout, si vous vous appelez Belle à nouveau, c'est aussi, et vous le dites, une façon de tutoyer le public.
Ouais, je pense que d'être toujours dans un nom qui est une posture de personnage, finalement on en oublie que c'est un être humain derrière. Et je pense me livrer suffisamment sur ce dernier album avec simplicité pour ne pas avoir à jouer un rôle Et voilà, c'est aussi pour ça que j'avais juste, juste envie qu'on m'appelle Ben, en fait.
Eh ben, on va le faire. Alors, dans cet album, le premier titre, ce qu'on va écouter, c'est le titre de l'album, Addict to You. Every time I'm falling, you're the one I'm calling. And everywhere I'm going, I know your eyes are on me. Alors, vous êtes justement addict, car ces chansons vous ressemblent. C'est un mélange de R&B, de hip-hop, de pop, de soul et de jazz.
Ouais, il y a plein d'influences. En fait, au bout d'un moment, au bout du compte, c'est... on se pose toujours cette question, mais qu'est-ce qui nous définit quand on fait de la musique ? Et en fait, moi, c'est surtout une mélodie. C'est une mélodie que j'ai envie de chanter. Et je peux avoir envie de la chanter à la guitare, comme avec un full band à 40 personnes sur scène. Donc, le plus important, c'est quoi chanter et à qui le chanter, en fait.
Voilà, parce que des mélodies, c'est bien, mais c'est rare. Aujourd'hui, on parle de son et plus de mélodie.
Exactement. Exactement. Pour moi, c'est ce petit côté, peut-être aussi, que je ne lâcherai pas, mais qui est mon moteur, c'est ce côté un peu traditionnel, c'est écrire des chansons. Moi, je parle de chansons, en fait. Et la partie réalisation, moi, je m'y suis impliqué au fur et à mesure, et de plus en plus, en fait. Mais j'adore cette partie de conception, parce que ça me rappelle aussi les beaux-arts, les esquisses, les dessins, avant de s'attaquer à une toile. Mais le plus important, en fait, finalement, c'est... je m'étais amusé à résumer ça à deux choses. Ça s'appelait « The vibe and the message ». Et donc, il y avait la vibe. La vibe, ça peut être la couleur d'accord, la manière dont on va réaliser l'œuvre. Et puis, le message, quoi. Le message, quel est ton message ? Et ça, je pense que le vecteur aussi est mélodique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les mots, c'est quand même la mélodie va pouvoir faire en sorte que tu entendes le message. Donc voilà.
Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il y ait cinq genres mélangés. C'est rare dans un album en général, un artiste, il a un thème et puis ça s'arrête là.
Ouais, en fait, c'est parce qu'on décortique et qu'on essaye de donner les clés de... Moi, je suis dans la transmission, j'ai envie vraiment que les gens qui me découvrent aujourd'hui comprennent que je suis dans la musique, je suis pas dans une posture, je suis dans l'expérimentation, je suis une éponge et je continue de me nourrir de ce qui m'a nourri aussi il y a 10 ans, mais aujourd'hui je fais rentrer d'autres, des nouvelles choses et je m'ouvre de plus en plus aussi à la création, en fait. Je crois que le plus important aujourd'hui, c'est d'être créatif plutôt que d'essayer de répondre à des codes ou des choses comme ça.
Alors en même temps, il y a beaucoup de jazz dans cet album, c'est assez nouveau pour vous. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le premier orchestre de jazz à Paris qui a fait scandale, c'était pendant la Première Guerre mondiale en 1917 au Casino de Paris. Harry Pilser est arrivé de New York. Ça a fait un tabac pour la nouvelle génération et un échec complet pour l'ancienne génération. Une musique de sauvage, ça a évolué depuis.
J'ai joué dans cette salle.
Oui.
J'adore cette salle.
Voilà, mais c'est là où est né le jazz en France.
Oui, oui.
Mais le fait que ce soit une musique de sauvage, ça vous étonne, parce qu'on parle, parce que aujourd'hui le hip-hop, par exemple, c'est classique. Il y a 10 ans, c'était jeté.
Mais je pense que c'est nécessaire. Et puis c'est des nouvelles ères, en fait. Quand on entre dans une nouvelle ère, on bouscule forcément la précédente. Et les gens qui avaient leur repère, leur équilibre, qui avaient trouvé peut-être aussi leur plaisir, voient quelque chose qui arrive, qui va complètement changer la donne et ça leur plaît pas. Moi, je peux tout à fait comprendre ça, en fait. Ça me fait pas peur, mais...
Ce qu'il y a derrière ce disque aussi, c'est un symbole. Il y a 11 chansons et 11, ça fait 1 plus 1. Et c'est pas par hasard.
Ouais, la symbolique. Alors bon, moi, je suis un peu chez père avec ça, mais j'aime bien voir des chiffres, j'aime bien voir des... Voilà, j'ai mes petits signes, ça me réconforte dans mon quotidien, ça illumine un peu une journée basique, quoi. Et le 11, voilà, c'est un chiffre qui me parle. Puis c'est le mois de novembre aussi.
Oui.
Je suis né un mois de novembre, un 10.
Voilà, 10 plus 1, voilà. Alors, les chiffres aussi, ça parle dans cet album, puisque le chiffre 2, c'est une chanson, Two Trees. Two trees, coming from the same soul, the same seeds. I love the way you sway through the same breeze. Just two trees, two trees, two trees, two trees. Alors, cette chanson, elle a une histoire, Ben. Je crois qu'elle est née dans une rue de New York quand vous étiez en voiture.
Ouais, c'est ça. En fait, j'allais rencontrer un groupe de compositeurs qui s'appelle Like Minds, qui sont à Brooklyn, New York. Et sur le chemin, bon, c'est les premières rencontres, on ne sait jamais trop comment ça va se passer, surtout quand on est dans la création. C'est vrai qu'il y a une appréhension aussi des égos, on ne sait pas trop comment, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher. Et je me suis dit, il faut pas que j'arrive les mains vides, il faut que j'arrive aussi avec peut-être une idée ou un début de morceau, quelque chose, pour commencer la séance. Ça nous mettra déjà sur des rails. Et en fait, juste devant leur bâtiment, il y avait des travaux et un bâtiment qui était en train de se construire. Et le logo de l'entreprise, sans doute, qui était en train de faire le bâtiment, c'était deux arbres dont les racines sous terre se mêlaient, comme se donnaient la main, en fait, et dont les branches au-dessus, un peu la partie visible de l'iceberg, pareil, pouvaient donc les branches se toucher, se frotter. Et c'est une image qui m'a marqué, et en rentrant au studio, je leur en ai parlé tout de suite, ça leur a plu. Comme quoi, en fait, quand on est créatif, une simple idée, parfois, c'est aussi l'occasion d'engager un dialogue et de pouvoir travailler ensemble d'être sur la même longueur d'onde, en fait.
Oui, et surtout, il y a une idée derrière ces arbres, c'est l'enracinement, qui est très important pour vous, Ben.
Oui, je pense, d'autant plus qu'on peut avoir des vies de marins quand on part en tournée, qu'on est déraciné pendant plusieurs semaines, loin de notre famille, de nos amis, avec des horaires un peu à l'envers, des décalages horaires.
Remarquez, marin, c'est bien pour les vagues d'applaudissements.
Vaut mieux celle-ci, oui. Ouais.
Mais effectivement, on a cette vie-là et en même temps, l'enracinement est très important.
L'enracinement, c'est ce qui fait qu'on va pouvoir monter très haut. Je pense que de connaître, de savoir qui on est et qui on a toujours envie de rester, ça offre en fait une possible mutation en fait perpétuelle. Moi, je reste en mouvement. C'est vrai que j'ai expérimenté ça, de ne pas faire soulman à mes concerts, parce que j'étais dans la création d'un nouveau un nouveau genre ou un nouveau disque ou des œuvres avec lesquelles j'avais vraiment envie de rester et de le faire découvrir au public. Et je me suis un peu enfermé à un moment donné dans cette bulle de création où je dis mais non, mais c'est ça la musique que je fais aujourd'hui, c'est ça le son que je veux vous faire écouter. Et à la fin, ils sont venus me voir et m'ont dit mais non, mais si on est là dans cette salle, c'est pour soulman aussi.
Voilà, il faut les deux.
Donc, trouve ton équilibre, raconte aussi, mais n'oublie pas. Et je remercie tous les gens qui m'ont rappelé ça aussi. Parce que je crois que la relation avec un tube, parce que c'était un tube, hein, c'est une relation qui est assez enrichissante, c'est passionnel, parfois on n'en veut plus, parfois on l'adore. Ça nous permet aussi de nous relever parfois, enfin, c'est tout un truc.
Et puis il y a une rencontre dans un couloir qui a donné une chanson avec I Am, c'est My Life. Alors quand je parle de rencontre dans un couloir, c'est que cette chanson est née dans le couloir de votre maison de disques, Ben.
En fait, c'était pas dans un couloir, c'était au pied d'un bâtiment, et c'était le bâtiment, et c'était Universal, presque au pied du Panthéon, et j'ai croisé Ayam et ça m'a fait ultra ultra plaisir.
Là, vous aviez fait un duo avec Athénaton.
Je les avais rencontrés plusieurs fois, on avait déjà fait des projets, partagé des scènes. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais vraiment croisé le fer, comme on dit, et là, ça a été l'occasion.
Voilà. Il faut savoir qu'au départ, à Akhenaton, il est né à Plantkuk, il s'appelle Philippe Fragione, et à Plantkuk, il y a Titov aussi qui est né là-bas, et quelqu'un de très célèbre qui a habité pendant 10 ans, c'est Jean-Jacques Goldman, qui vivait dans un petit appartement au-dessus de la gendarmerie avec sa fiancée, et son dernier album, il l'a enregistré dans ce trois pièces avec une sorte de canapé pour se protéger.
Ah oui.
Donc Akhenaton et Goldman, même combat. Mais en même temps, les duos de ce genre, ça vous touche. Vous en avez fait beaucoup des duos. Ben.
Moi, j'adore croiser l'univers avec celui de quelqu'un d'autre. J'ai appelé mon label Enchanté parce que je trouve ça cool cette histoire de poignée de main. Alors en ce moment, ça nous manque pas mal, oui. Mais c'est vrai que l'invitation, la rencontre de deux genres, de deux personnalités. Ça donne souvent naissance à un dialogue qui élève, en fait. C'est édifiant, en fait, de travailler avec quelqu'un d'autre.
Alors, vous avez travaillé, en revanche, tout seul pour cette chanson, Next to You, mais il est lié quand même à quelqu'un. Next to you.
puddle right next to you. Yeah, 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 yeah.
On a encore un son très différent. Et cette chanson, quand je dis c'est lié à quelqu'un, c'est lié à votre nouveau rôle, celui de père.
Exactement, ouais, c'est vrai que c'est... un morceau que j'ai écrit pour ma petite. Bah, en fait, on parlait de la vie de marin, de pouvoir, quitter le domicile pour aller voyager, etc. Et en fait, le point d'ancrage quand on est père ou quand on a un enfant ou plusieurs, c'est quand même... ça devient déchirant, en fait, d'avoir à repartir. Même si c'est ma passion, hein, moi, chanter, jamais je m'arrêterai. Enfin, je pense pas, mais... Je sais que c'est un déchirement de
s'en aller.
Ouais, parce qu'on va louper trop d'étapes, quoi. Ça va trop vite, là. Elle a 17 mois, la petite, et ça va une allure folle, quoi.
Voilà, et pour votre enfant, vous êtes bien sûr le meilleur, et The Best, vous l'avez aussi chanté.
Wanna be the best job for you, my life.
The best, le meilleur, mais pour être le meilleur, il faut avoir la confiance et confiance l'un en l'autre. Et ça, c'est une idée que vous défendez et à laquelle vous accrochez, Ben, au-delà de la chanson.
Oui, au-delà de la chanson, et puis pas seulement avec nos enfants, mais même en amitié ou des choses... je pense que c'est vraiment intéressant, quoi, de traverser la vie avec des gens qui nous ressemblent. Qu'on n'a pas forcément choisi, mais leur rester fidèle, garder toujours cette porte ouverte, c'est faire preuve aussi beaucoup de sagesse, et ça nous fait prendre du recul, je pense, aussi par rapport à chaque vécu.
Du recul pour aller vers l'avenir. Bon, il y aura d'autres disques, vous travaillez, il y a l'Olympia le 27 janvier, et il y a un avenir parce que, comme vous dites, vous arrêterez jamais.
J'ai jamais eu autant de musique à sortir que à l'heure où on se parle, Jacques.
Et ben voilà, c'est ce qui vous permet de rester dans la note, justement. En tout cas, continuez comme ça, parce qu'on a besoin, justement, que la musique vive, et vous faites partie de ceux qui la font vivre. Merci, Ben.
Merci beaucoup, Jacques.
Je recommande donc cet album, l'Olympia, le 27 janvier, et la tournée qui, j'espère, suivra, dès qu'on pourra.
A priori.
Merci, bien, et vous êtes toujours le bienvenu sur Sud Radio, on sera toujours heureux de vous accueillir.
Super.
Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt, et bien sûr, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.